France Culture. Les nuits de France Culture.
Si vous avez été lecteur de la revue Rock and Folk, ou que vous avez suivi d'une manière ou d'une autre la vie de la musique rock à la télévision ou à la radio ces dernières décennies, son nom vous est forcément familier. Philippe Manœuvre. Emblématique journaliste musical, Philippe Manœuvre, avec sa gouaille inimitable, était l'invité de l'émission Radio Libre en novembre 2011. Invitation qui faisait suite à la parution d'un ouvrage dirigé par le journaliste et consacré aux plus grands disques du rock français. Dans cette émission, le rédacteur en chef de Rock and Folk ne répondait pas seul aux questions d'Arnaud Laporte, il était accompagné de l'un de ses co-auteurs, rock critique comme lui, Jean-William Toury. Cette discussion que vous allez entendre dans quelques instants retrace les grandes heures de la musique rock dans l'Hexagone, des chaussettes noires à Bébé Brune. Ce qui permet aux deux journalistes de revenir sur un certain nombre d'épisodes marquants. Le phénomène Johnny Hallyday, l'irruption de Françoise Hardy, un certain bouillonnement créatif à la fin des années 70 avec Bijou et Star Shooter, la rébellion des groupes indés dans le sillage de Berruyer Noir, la French Touch et son succès mondial qui ne s'est pas démenti depuis, sans oublier les bébés rockers des années 2010, Plasticine, Nast ou Bébé Brune. À travers ces épisodes, c'est aussi le métier de journaliste musical que Philippe Manœuvre et Jean-William Toury décrivent en creux. Métier qui doit évidemment beaucoup aux grandes plumes américaines et britanniques, de Nick Cohn à Lester Bangs, grandes plumes qui fixèrent les canons du genre. L'épopée du rock français à travers le regard des rock critiques français, c'est donc le programme de ce numéro de Radio Libre avec Philippe Manœuvre et Jean-William Toury, une émission du 6 novembre 2010.
Bonjour, Radio Libre jusqu'à 17h sur France Culture. Dans cette émission, chaque semaine, ou presque, des musiciens viennent jouer en live devant des invités qui apprécient ou pas d'ailleurs leurs prestations. Il y a un mois, c'était notre invité, Philippe Catherine, qui assurait également la partie musicale, nous livrant un mini-concert dans le studio 105 de la Maison de Radio France. Aujourd'hui, l'exercice va être encore différent, puisque c'est de musique, du goût de la musique dont nous allons parler avec nos invités, en écoutant sans doute beaucoup d'extraits d'albums. J'avais, il y a quelques mois, repéré l'annonce de la sortie d'un livre qui semblait devoir me réjouir. Le livre est là, l'effet escompté s'est produit. Sur sa couverture, on peut lire « Philippe Manœuvre présente rock français ». Ces deux mots écrits en lettres tricolores, reprenant le bleu, blanc, rouge de notre drapeau national. J'ai donc invité aujourd'hui Philippe Manœuvre, présent avec moi dans ce studio. Mais comme un rocker ne se déplace jamais sans sa bande, ce dernier suggéra tout d'abord de venir avec Philippe Thiers et Jean-William Toury. Thiers, finalement excusé, Toury est là ce jour avec Manœuvre. Et c'est à deux voix qu'ils vont nous parler de l'histoire de ce livre. La qualité sonore de cette émission, elle sera due à Bruno Nievdanski et Jean-Frédéric, qui assurent la prise de son ce jour. L'équipe de Radio Libre à mes côtés, toujours constituée de Fleur Avé, Fanny Jaffré, la conception et la préparation, Lionel Quentin à la réalisation. Merci donc, Philippe Manœuvre, Jean-William Toury, d'avoir accepté cette invitation pour notre émission Radio Libre. Mais
merci de nous recevoir, Arnaud. C'est pas sans émotion qu'on vient sur la grande France Culture. Il y a beaucoup d'écrivains, d'artistes qui sont à l'écoute, je le sais, par expérience. Donc c'est un moment très fort.
Bon, ben écoutez, alors on souhaite qu'il soit fort pendant ces 90 minutes qui vont nous permettre à la fois de croiser votre histoire et puis celle de rock français, sujet de ce livre publié chez Ebec. Peut-être commencer par le commencement entre vous deux, en tout cas. Quand avez-vous rencontré Toury, Manœuvre ?
Oh, après les concerts de Bijou en 1977, non, par là.
Je pense qu'on s'est rencontrés bien avant, mais...
voilà, il y a toujours deux versions, oui, hein, sur une rencontre.
Les témoignages sont contradictoires. Ouais. Je pense qu'on se connaissait déjà de...
de...
d'être collègue rock critique ou journaliste rock à Rock et Folk pour Philippe et moi à Extra. Quand nous allions à Londres voir des concerts, etc.
On va voir aussi comment s'est déclaré pour vous l'amour de cette musique et nous éclairer aussi de vos lumières sur cette histoire du rock français. Alors, c'est vrai que les années 60, c'est quasiment vous qui les prenez seuls en charge dans le livre, Jean-William Toury.
Mais vous revenez. Privilège de l'âge.
Oui, mais vous revenez parcimonieusement dans chacune des autres décennies. Pour en savoir plus, on va repartir de 1961, année qui marque l'apparition, selon vous, mais on peut en discuter, du rock en France. On va dire que vous entrez à ce moment-là dans l'adolescence, Jean-William Toury, tandis que Philippe Manœuvre atteint l'âge de raison, comme ça chacun peut calculer vos dates respectives de naissance. Est-ce que vous lisiez, conformément à ce qui était inscrit dans la préface que vous signez, est-ce que vous lisiez les albums du Père Castor à ce moment-là, Philippe Manœuvre ?
Je confesse que, oui, bien sûr, les albums du Père Castor, les Oui Oui, les Clubs des 5, Clan des 7, j'ai lu tout ce qu'on pouvait lire en tant qu'adolescent en France. C'était... Un moment difficile, comme tout, pour tous les adolescents du monde. Mais nous, on n'était pas consolés par un flot d'informations délirant, quoi. C'était ce qui fait que c'était un pays extrêmement 19e siècle, la France des années 50. Et d'un seul coup, arrive le rock. Et dans le boucan des guitares électriques, il se passe pour la première fois un phénomène de masse qui fait qu'il y a vraiment une armée de jeunes qui semblent se lever, répondre à l'appel de la guitare électrique. Quoi. C'est un changement de cap avec tout ce qui s'est passé avant. Moi, je me souviens mais de l'irruption de Françoise Hardy. Enfin, c'était un choc rock, Françoise Hardy, parce que cette fille n'avait absolument pas la puissance vocale d'une Cora Vauquer, qui était les modèles de l'époque des années 50, et elle arrivait... Elle avait sa musique, ses chansons, sa façon de chanter extrêmement personnelle, extrêmement... c'est tout ce que le rock a défendu après, quoi. Le droit à la différence. Être soi-même, faire admettre sa différence et essayer d'en faire quelque chose. Et on n'a que ça. C'est à peu près l'histoire de tous les gens qui sont dans le livre. Ça commence avec des groupes qui... Ça commence avec un succès fracassant, surtout parce que ces groupes sont plébiscités par des millions de baby-boomers. C'est vrai qu'avant, oui, bien sûr, il y a eu quelques 45 tours. Bien sûr que Jean-William Toury va vous parler de Macaque et de Henry Cording.
Ah oui.
Mais nous, si vous voulez, on a décidé à un moment... Moi, j'ai pensé qu'il fallait faire une histoire des 30 cm rock en France... On ne pouvait pas s'occuper des 45 tours tout de suite. Mmh. C'est dommage parce que certains personnages et certains rendez-vous mythiques ont eu lieu que en 45 tours. Mais on a essayé, à travers les albums, de construire, ma foi, ce qui serait modestement une histoire du rock.
Le premier rocker en France, 1960, c'est Johnny. Quoi. Et avant, il y a du rock'n'roll, mais ce n'est pas des rockers. Hein. Donc effectivement, Macaque, ça c'est formidable. D'ailleurs, il y a un album entier hein, que je conseille. Mais c'est fait par des jazzmen, donc il n'y a pas d'identification. La jeunesse se reconnaît pas en eux.
Il y a même un premier rendez-vous manqué, Boris Vian et Salvador, 59. Mais ça aurait pu être effectivement enterré tout de suite le rock en France.
Et ça a cartonné, c'est un disque comique. Boris Vian détestait le rock. Enfin, il le voyait dans certains de ses textes, très ambivalent quand même, hein, parce que j'ai relu tous ses textes. Il y a certains textes sur Elvis. Il aime beaucoup Elvis. Il aime beaucoup ce gamin qui arrive et qui trouble le jeu. Ça, il aime ça. Mais quand
il
discute,
personnage.
Voilà. Mmh. Et quand il discute de la qualité technique musicale, il parle de la basse flinguée, de la batterie qui... cette contrebasse flinguée, de la batterie qui se cantonne à un binaire abominable pour les jazzmen. C'est terrifiant, ce rythme qui est le rythme que les enfants vont adorer, le rythme binaire. Alors, bon, il y a sa compréhension. Et alors, il fait un truc comique. Et ce truc comique va s'attacher au rock français. Il va y avoir des comiques rock.
En même temps, c'est fait avec sérieux. Je pense que s'ils avaient détesté ça, ils n'en auraient tout simplement pas fait. Et là, ça les amusait quand même beaucoup.
Et Henry Cording, alias Henry Salvador, qui ne voulait pas que ça sorte sous son vrai nom, et qui ensuite a demandé qu'il y ait sa photo sur la pochette quand il a appris que ça s'était vendu à plus d'un million.
Et puis il y a eu des étapes intermédiaires. Il y a eu, par exemple, Richard Anthony, Nouvelle Vague, 59. C'est vraiment un tube. Hein, c'est plus que disque d'or, je crois. Et c'est déjà l'adaptation des Coasters. Et lui, il se fait appeler Rockin' Richard. Il pose sur une moto avec un blouson. On y est presque. Mais c'est Johnny qui fait vraiment le boom. Hein. Big Bang, c'est Johnny.
Justement, pour en revenir au disque et aux 33 tours, donc qui sont dans les 30 cm qui sont dans ce livre rock français, lequel, Jean-William Toury, avez-vous le premier possédé vous-même?
Là, on commence par un 25 cm des Chats Sauvages que j'ai eu, que j'ai adoré.
À sa sortie?
Que j'ai eu à sa sortie, oui. Que j'ai écouté, je ne sais pas, 4 millions de fois. Les Chaussettes Noires, pareil, Johnny, enfin, toute la bande.
Et pour vous, Philippe Manab, le premier que vous ayez acheté avec votre argent?
Non, c'est ma maman qui m'a offert Hugo Frey chante Dylan. Ah. Et je pense que ça a été un acte fondateur dans la famille Manœuvre, je pense, franchement, oui.
C'est vrai que vous avez aussi, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez croisé en tant que...
Non, parce que, attendez, il faut préciser les choses.
Oui.
Je réfléchis à ça.
Oui,
ma maman m'offre un album parce qu'on n'avait pas du tout les adolescents des années 60, on n'avait pas les 23 francs pour aller acheter un album. On arrivait sur nos 6 francs d'argent de poche hebdomadaire à acheter un 45 tours par semaine, puis ça valait 5 francs. Mmh. Mais l'album, c'était un acte incroyable. Posséder un album, c'était, vous étiez chez les Big Boys, quoi. Il y avait quelque chose de mythique. Le type qui arrivait avec un disque des Rolling Stones sous le bras au lycée, enfin, immédiatement, il mythifiait, quoi.
Confirmez, Jean-William Toury, l'importance de l'album sur le 45 tours?
Oui, c'est que le 45 tours, on achetait nous surtout des super 45 tours. Donc 45 tours de durée prolongée, ce qu'on appelle maintenant des EP, avec 4 morceaux. Et c'était une distance qui était excellente pour faire connaissance avec un artiste. C'est-à-dire sur 4 morceaux, on n'a pas le temps vraiment de s'ennuyer, mais on a le temps de bien voir son style ou s'habituer à la voix, à la musique, etc. Et tout ce qui se passait pour nous jusqu'en 64, c'était en super 45 tours.
Alors pour commencer, premier extrait peut-être, on parle toujours des Beatles et des Stones, moi il y a aussi une grande querelle qui est Chats Sauvages.
Ah mais oui, le premier schisme des lycées.
Chaussettes noires.
Le premier schisme alors, des lycées, c'était tu chat et tu chaussette.
Faut-il enfin, faire vraiment. Son outing ici, alors vous êtes chat ou chaussette?
Moi ça m'est passé, non mais alors là je plaide pas coupable, je ne sais pas d'éviter, je suis trop jeune pour avoir vécu ce débat.
Mais on peut l'avoir vu après coup.
Et non, moi j'ai vécu, moi le débat de ma génération, c'était Beatles ou Stones. Je peux pas vous dire j'étais chat, j'étais chaussette. De toute façon, moi j'étais Johnny, j'adorais Johnny. Quand j'entendais ça à la radio, moi il y a eu un moment fondateur. Je crois que ça a été une des premières interviews télévisées de Johnny Hallyday où il s'exprimait par silence, borgborigme, mais expressions presque comme ça, très laconiques et où tous les adultes avaient dit, bon, c'est un débile mental. Et nous, les gamins, on avait tous compris ce qu'ils nous disaient. Ça a été un cas incroyable où la même personne déclenchait des réactions, un tollé de réactions, de l'approbation la plus totale à la haine absolue. Mais ça laissait personne indifférent. On savait qu'on tenait un truc incroyable avec lui, quoi.
Et vous, Jean-William Toury, Chat Sauvage ou Chaussettes Noires? Vous qui avez à peine quelques années plus que Philippe, mais...
Je ne pense pas qu'il y ait eu d'opposition, en fait, moi. Je vois pas le schisme. Je me souviens qu'on adorait tous les groupes. Les Chaussettes Noires d'abord, ils sont arrivés en premier, c'était les meilleurs. Les Chats Sauvages étaient formidables.
Quand même, c'est une réponse.
Non, mais les Chats Sauvages étaient formidables aussi, avec un son un peu différent, plus shallows. Mais on adorait aussi les Pirates, les Vautours, les Pingouins, etc. Et il y avait, en général, si un copain achetait les chaussettes, l'autre achetait les chats et on se les prêtait, etc.
Bon, mais moi j'ai une tendresse quand même particulière pour les Chaussettes Noires, ça va être peut-être à cause de mon grand frère. Allez savoir, donc, les Chaussettes Noires.
En place pour la leçon de twist. De tous côtés on n'entend plus que ça. Un air nouveau qui nous vient de là-bas. Un air nouveau qui vous fait du dégât. Et comme moi il vous prendra. Sont sûrs dans ce rythme merveilleux. Alors c'est cela quatre ou bien à deux. Pas besoin de le regard dans les yeux. Il y a simplement qu'à être heureux. Twist and twist. Vous y viendrez tous. Twist and twist. Et vous verrez tous. Twist and twist. Le monde entier twisté. Il est devant et les deux mains fermées. Légèrement penché sur le côté. Sans oublier aussi de pivoter. Encore un effort vous l'avez. C'est ça, oui, comme ça.
Bravo les chaussettes, chante le cœur. Mais ça fait très très longtemps que je n'avais pas entendu. Et pourtant, évidemment, comme toujours, les paroles reviennent immédiatement. Cette leçon de twist par les chaussettes noires. Vous avez parlé de vos activités respectives de rock critique. En 72, Jean-William Thory, vous gagnez un concours radiophonique, Monsieur Pop 72. Et ça vous donne le droit et le privilège d'écrire dans Pop Music, le magazine qui est partenaire de cette émission.
Le seul rock critique recruté sur concours.
Alors, écoutez, voilà un exploit. Sérieusement, la première fois que vous voyez un article signé par vous dans le journal, vous avez quelle sensation?
Trop fier. Avoir son nom écrit.
C'était quoi le premier article?
Je faisais les géants du rock.
Pour commencer, c'est
les
pas
pionniers.
Mal.
Ouais. Les pionniers, un par un, dans un hebdo qui s'appelait Pop Music, en papier journal, qui était une sorte de Melody Maker à la française.
Le premier papier, entre guillemets, signé Philippe Manœuvre, c'est le courrier des lecteurs de Rock'n'Folk.
Voilà, moi je suis un classique arrivé par le courrier des lecteurs de Rock'n'Folk, donc la lettre d'insulte classique. Il n'avait rien compris, sur les Stooges, Raw Power, que j'avais trouvé trop... Alors que le journaliste avait fait une très bonne chronique, moi j'avais trouvé ça trop mou, pas assez violent, pas assez exalté, pas assez enthousiaste, voilà. Mais alors moi, il y a eu un truc incroyable, dans toute l'histoire du journal, je crois que j'ai eu la seule réponse du rédacteur en chef de l'histoire, où il a dit « cette fois ça va trop loin, vous manquez d'humour, jeune homme, ça va ». Et donc... il disait, franchement, vous êtes devenu fou, là, calmez-vous, vous manquez d'humour. Donc c'était un peu à la fois un très grand moment de publication et tout de suite, gratification arrivait sous forme d'une grande tape sur le nez. Quoi.
Donc le jour où vous sentirez vous-même l'envie de répondre à un lecteur qui écrira Rock'n'Folk, vous savez que ce sera votre boîte à successeur.
Maintenant, je fais souvent des réponses au courrier des lecteurs quand les gens comprennent pas, quand ils comprenaient pas, par exemple... que Rock'n'Folk suive toute la nouvelle vague des gamins qui sont apparus en 2005. Les lecteurs, pour beaucoup de lecteurs, je les comprends, qui avaient 50, 60 ans, l'histoire était terminée. L'histoire du rock s'était brutalement ou pas arrêtée. Et donc qu'on trouve des gamins qui, au Gibus Club à Paris, voulaient faire leur métier, leur vie, tous ces Nast, Second Sex, Plasticine, Bratz, etc. Pour certains lecteurs, c'était outrageux. C'était pas Rock'n'Folk de faire ce boulot-là. Pourquoi nous, la plus vieille des revues, on allait voir les plus jeunes des gamins en disant c'est fabuleux, ils veulent reprendre la formule basse, guitare, batterie, repartir avec. Et en plus, ça fonctionnait. Il y avait quand même une toute petite bande autour. Il y avait quand même. C'est devenu un petit mouvement national quand les bébés brunes ont prouvé qu'on pouvait encore une fois réitérer cette histoire de la génération découvre son groupe. Parce que ces chaussettes noires et chats sauvages, il s'est passé un phénomène. Une génération a dit, voilà, Johnny Hallyday, les chaussettes, les chats, c'est nous, on est là. Et donc, poussez-vous, Maurice Chevalier, poussez-vous, Yves Montand, poussez-vous, Tino Rossi, c'est nous maintenant, les cadors, il y a un nouveau shérif en ville, tout ce qu'on peut... C'est ça, l'histoire du rock. Et ça s'est reproduit. Ensuite, ces artistes, les yéyés, se sont endormis. Ils ont pris une gifle en 67, je pense, quand Polnareff est arrivé. C'est un peu Polnareff qui a clôturé l'exercice. Et puis ensuite, on a vu les groupes revenir. En 69, il y a une très grosse vague hippie rock en France, avec les variations, avec Magma, avec Moving Gelatine Plate, Hamson, tous les groupes hippies. Et puis, ça va revenir en 76. Donc, à nouveau, une génération autour de Téléphone, Bijoux, Star Shooter. Ça va revenir en 82, autour de Trust, Indochine. Ça va revenir avec Noir Désir. Et c'est revenu avec les bébés brunes. Enfin, c'est normal, chaque génération a le droit de se choisir son représentant. Alors après, moi je vois ça un peu comme des gamins qui, une génération dit « vous, on vous aime bien, vous allez faire tout pour nous, quoi. Vous allez vous évader du camp de concentration, du travail, et vous avez le droit de rigoler, vous êtes nos représentants un petit peu. » Il y a un peu ce côté hein, aujourd'hui, c'est un peu les drapeaux, quoi. Et les bébés brunes, en ce moment, avec 300 000 disques vendus, sont clairement le groupe d'une génération, oui, qui est là, et qui a décidé que ça serait encore une génération rock. Et nous, en fait, avec Jean-William, on avait vu cette explosion de groupes, de talents, et on s'était dit à un moment, on a senti le besoin d'un vrai bouquin, d'un livre sur l'histoire du truc. Parce que les gamins recherchent, c'est ça qui est formidable, ils ont une vraie volonté de savoir ce qui s'est passé avant eux, et il fallait leur indiquer toutes ces utopies de malades mentaux, certains. Enfin, il y a absolument... Si on feuillette le bouquin, il y a tout, quoi. Il y en a qui se sont rêvés en bluesmen, il y en a qui se sont vus en Stooges, mais c'était pas prévu qu'il y ait les Stooges à Montrouge. bouge. C'est ça qui est drôle après, c'est comment ça frotte avec la réalité française. Tous ces groupes ont été des sources d'étincelles avec les médias, avec les, de polémiques, d'étincelles, de trucs. Enfin, c'est une histoire fantastique, en fait, ce qui s'est passé. Quoi. Il y a eu vraiment une volonté de tous ces jeunes de vivre leur utopie rock sur le mode rock. Parce qu'en France, rien n'est rock, rien n'est prévu pour. Mais c'est vrai, on n'a pas la langue, on n'a pas... Donc, on fait un boulot, je dirais, d'adaptation au monde moderne en permanence à travers le rock.
Alors nous, on va essayer de s'adapter en permanence au discours autour de cette table pour suivre un fil pas du tout chronologique, juste pour se les remettre dans l'oreille quand même, les bébés brunes.
Une légère envie de violence quand elle relâche ses bas. Je ne suis plus à vendre ou na, je ne suis plus comme ça. Des rumeurs adolescentes disent que je ne suis pas à toi et je pense qu'une part de vrai se cache. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi, dis-moi si tu aimes ça ou na. Car je suis fou de toi. Quand tu ne m'appartiens pas. Une violente envie de descente lorsque t'embrasses ces gars. Mais je ne ferai point l'enfant, tout cela ne m'atteint pas. Des rumeurs adolescentes disent que je ne suis pas un homme à femme et rien d'autre qu'un homme à toi. Dis-moi si je dois partir ou pas. Quand tu ne m'appartiens pas. Attache les bras. Quand je fais sautiller sa frange, ses cris se tirent dans les graves. Quand le voyeur en redemande, moi je ne veux que une. De plus belles des plus belles jambes et de la place pour trois. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi, dis-moi si tu aimes ça. Tu ne m'appartiens pas.
Voilà, on a fait un grand saut dans le temps comme ça, des chaussettes noires bébé brune. Mais on va naviguer toujours, mais revenir aussi et croiser toujours vos histoires personnelles, Jean-William Thory et Philippe Manœuvre. Les années 70-80, elles vous occupent beaucoup aussi du côté de Métal Hurlant, des humanoïdes associés, toute l'aventure avec la bande dessinée, avec la science-fiction. Le flambeau est repris magnifiquement sur notre antenne par François Angelier. Tous les samedis à 19h dans l'émission Mauvais Genre. Mais c'est vrai que vous avez aussi d'ailleurs poussé à la radio, à France Inter, ces portes-là du Mauvais Genre. C'est aussi la façon de rencontrer pour vous Jean-Pierre Dionnet, Moebius, Drouillet et beaucoup de gens. Alors aujourd'hui, Moebius est au musée. Ça veut dire que la partie est gagnée ou perdue, Philippe Manœuvre ?
Moi, j'ai tendance à penser que la partie est gagnée, même si en route, on a perdu beaucoup de gens. Voilà, il y a beaucoup de disparitions. C'est très douloureux. Tout le monde n'est pas récompensé de la même manière. C'est clair qu'il y a des gens qui... Moi, c'est pour ça qu'à ce moment-là précis, je dis, il faut quand même faire ce livre sur le rock français pour dire, non, mais pour faire un socle à tous ces gens, les Frenchies, les Wild Child, ça les a pas condamnés à continuer comme les Stones, mais ils ont essayé, et ils ont essayé à 110%, et très souvent, ça a existé. Des choses comme Extraball, les Dogs, enfin tous ces groupes qu'on met dans le livre et dont aucun chroniqueur ne souhaite parler quand on va à la télévision pour présenter le livre. C'est pour eux, les groupes, c'est une abomination.
Ah,
c'est le groupe de rock ne plaît pas, il est considéré comme une source d'ennui immédiate, ça ne plaît pas aux maisons de disques, ça ne plaît pas aux médias. Il n'y a pas eu une interview où on ait dit spontanément, donc le rock c'est des groupes. Non, pour eux le rock, attention, ça se définit par un outrage, par des comportements, une attitude, mais jamais par la musique qui est le produit des groupes. Car le rock vient d'un groupe, qui est, un groupe de rock, c'est une utopie, quoi. C'est quatre types qui, dans la cour du lycée ou de la NPE, disent « on va réunir nos destins ». On va bien ensemble, les 4 ou 5, et ensuite 4, 5, 6, ça peut être un duo comme les Rita Mitsuko, ça peut être une smala comme était la Mano Negra. Et,
ça peut être 3, voire 4 pour Bijoux, dont on va parler dans un instant, évidemment,
voilà, c'est essentiel. Toutes les formes nous intéressent. Magma, ils étaient 22, et ça nous intéresse aussi, ça produit une musique stravinskienne, et qui a fait vraiment du bien au rock français, et qui est aujourd'hui révéré sur la toile, dans tous les forums, c'est planétaire l'amour de Magma, la passion pour Magma, non, mais beaucoup de jeunes redécouvrent Magma, moi j'ai découvert ça un jour en tournée avec M, Mathieu Chédid, on était en Égypte et au pied des pyramides il y avait toute son équipe technique qui écoutait de la Zeul, ils écoutaient Mécanique Destructive Commando, live à la BBC, donc je dis mais qu'est-ce qui se passe, c'était des enfants de 23 ans quoi, ils écoutaient un truc... qui était disparu ou qui était rentré dans la légende. Et c'est, je veux dire, aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens, écoutent les Five Gentlemen, beaucoup. Le rock français, il est valable, il ne disparaît pas, il est très très intéressant et intelligent.
Alors, ça pose plein de questions, mais j'aimerais juste donner quelques indications quand même à nos auditeurs, mais je voudrais qu'on revienne sur la question d'une possible nostalgie, parce qu'il y a un texte, notamment Jean-William Toury, qui s'intéresse à ce mot-là, et j'aimerais bien qu'on en reparle tout à l'heure, mais ce qui est aussi de l'héritage et de la propre histoire de son art pour ces jeunes gens d'aujourd'hui. Mais alors, continuons un instant pour dire qu'il y avait donc Métal Hurlant, les Humanoïdes Associés, qu'au même moment, ces années-là aussi, il y a des premiers pas à la télévision. Alors, le premier pas, c'est face au chanteur de Deep Purple, Philippe Manœuvre. D'ailleurs, Deep Purple est en tournée, sera prochainement en France. Alors, je ne sais pas si c'est rock'n'roll, escroquerie si. ou nostalgie là, qui est convoqué.
Votre avis
pourquoi nostalgie m'intéresse.
Ouais, souvent, je vais voir un groupe comme Deep Purple continue à jouer les morceaux qui ont été écrits dans une période 69-75. Donc, les gens qui vont voir ça ont envie d'une dose de rock. Voilà, c'est pas pour eux. Alors, est-ce qu'ils repensent ? C'est effectivement les plus anciens doivent avoir une dose de nostalgie. Mais moi, le problème,
c'est pas un gros mot, nostalgie.
Non, pour moi, c'est pas du tout ça, puisque l'histoire continue, que ce soir, il y a les prostitutes qui jouent au Gibus. Donc, si vous voulez, on n'est pas là dans un truc mort en disant, on fait pas une collection philatélique de groupes qui ont existé, qui nous semblaient bien. On dit juste, regardez, l'histoire existe, parce que rien ne permettait de classer cette histoire du rock français. Donc là, à partir de ce livre, on dit, voilà une possibilité de théorisation sur le rock français. Regardez, nous, on a choisi 123 disques. Ensuite, l'histoire continue. Donc, on n'est pas nostalgique, puisque on met toutes nos... Moi, je continue à mettre mes forces pour le présent, avec Rock et Folk et avec les jeunes groupes. Ils ont le droit de...
Mais les soirées au Gibus, comme ce soir.
Les soirées comme ce soir, je ne la produis pas.
Hein. Non,
je vais aller voir ce qui se passe. Je ne suis pas producteur, je ne gagne aucun argent là-dessus, mais ça m'intéresse de les aider à continuer, parce que je me souviens, moi, quand je suis arrivé dans les années 70, il m'avait semblé qu'il y avait des gens qui aidaient comme ça. Et c'est bien d'aider la musique à trouver son public.
Alors, Ian Gillan, Deep Purple, 75. Gillan, après, ouais. C'était, on vous rappelle, 2 ans après, parce que personne ne voulait interviewer les Clash.
Voilà, il y avait un terrible moment d'effroi, parce que les Sex Pistols avaient fait leur scandale à la télévision britannique. Et une semaine après, les Clash arrivaient à la télévision française. Tout le monde se fait porter pâle. Mais tout, et donc, quelqu'un s'est souvenu de mon existence. On m'a appelé à Métal Hurlant. J'ai pris le métro, je suis allé rue Cognac-Jay, j'ai présenté les Clash et je suis rentré à mon bureau en métro, ni plus ni moins. Voilà, c'est une très bonne après-midi. Je n'avais absolument... Il y a eu un moment incroyable où les Clash se sont mis à jouer au final. C'était quand même... Ils venaient, il fallait une interview, mais il fallait aussi qu'ils jouent leur musique. Ils ont commencé à jouer le premier morceau et tous les cadreurs sont partis tellement c'était trop puissant, sonore. Trop de puissance sonore, les types ont laissé les caméras, ils sont partis, et donc vous voyez les caméras tremblaient un peu. C'est l'histoire du rock en France, c'est toujours ça, quoi. C'est toujours on arrive, on se marre, on s'éclate et on sent que ça dérange, quoi. Donc c'est un phénomène intéressant et je continuerai, mais jusqu'à mon dernier souffle, à essayer d'aider ces dérangeurs de bourgeois, quoi. Parce que ils arrivent avec la joie. Enfin, c'est les rockers, c'est les roms, ça commence pareil, quoi. Voilà, ils arrivent avec la joie, avec la danse, avec la bonne humeur et on va s'apercevoir qu'il y a des petits problèmes. Ça va pas plaire à tout le monde.
Alors, dans ces années-là aussi, se forme Bijou. J'aimerais bien qu'on y consacre un moment, parce que évidemment, moi, évidemment, j'écoutais ça. J'avais les disques. Alors, maintenant que j'ai la chance d'avoir celui qui était à l'origine parolier, producteur, quatrième membre, on peut dire, du groupe Bijou. Mais pour se le remettre en mémoire, évidemment, il est aussi dans le livre. On écoute OK Carole. Carole, on l'aura compris, c'est aussi le titre de cet album de Bijou, Jean-William Toury, par rapport à ce que vient de dire Philippe Manœuvre, la création du groupe, la formation du groupe, la vie du groupe, comment est-ce que vous pouvez en parler aujourd'hui, pas loin de 35 ans après sa création?
Oui, je pense que ce que Philippe a dit est vrai, en ce sens que ce sont quatre jeunes gens qui s'ennuient en banlieue, qui font face effectivement à la NPE, ça n'existait peut-être pas, mais au petit boulot, genre distribution de prospectus, à l'étrier, le courrier, etc. Et qui voudraient vivre une vie plus libre et plus exaltante. Et le rock offre cette possibilité éventuelle. Donc il y a formation de groupe, les gens les plus motivés restent ensemble, les plus talentueux aussi. Et ça, à la fin, ça donne ces trois-là, quoi.
Voilà, c'est aussi rapidement plié.
Oui, enfin, je peux en parler pendant des heures, mais...
mais il y avait un choix de chanter en français, qui était quand même
très important, ouais, bien sûr.
Pourquoi
capital,
très
fondateur. C'est très important parce que je pense que quand on gaule la musique aux Américains, la moindre des choses, c'est d'apporter quelque chose à nous. Et dans les paroles, c'est là que c'est le plus facile. Je pense que si un amateur de jazz comme Claude Nougaro s'était mis à chanter en anglais, ça aurait été nettement moins intéressant. Et dans le rock, c'est pareil. Je pense que le français, c'est notre devoir de le faire dans notre langue. C'est la langue qu'on maîtrise le mieux, c'est la langue que notre public comprend le mieux. C'est une évidence pour moi. Je pense que Macaque en 56 le faisait déjà. Il n'y a pas de raison de se poser la question 50 ans plus tard.
Ah ouais, ça c'est quand même effectivement l'éternelle question.
Mais la question, elle a été posée.
Je sais, Philippe n'est pas vraiment d'accord. Mais bon.
À propos de Bijou, par les collègues anglais du journal Mojo, qui est un grand journal rock et qui faisait un grand papier sur l'histoire du rock français. Et la conclusion du journal Mojo, c'est que le groupe Bijou était brillant. Et que s'ils ne s'étaient pas acharnés à chanter en français, précisément, ils avaient une carrière internationale et qui tournerait sans doute encore aujourd'hui aux États-Unis. Donc là, c'est un choix.
Soit
on choisit de travailler pour les Français, soit on veut jouer sa musique autour du monde.
C'est une option artistique, créatrice, ce n'est pas une option de marché ou de carrière. Les gens qui disent en anglais, on va s'adresser à tous les pays, mais tant mieux pour eux. Mais moi, je pense qu'artistiquement, on est beaucoup plus crédible en français.
Philippe Manœuvre, c'est un débat vieux comme le rock français, enfin, voilà, la question du français
j'en
dans
veux
le
pas
rock.
Aux gens qui
en plus, le français sonne pas. C'est ça le, qui était le problème. Oui, on en parlait des nuits avec Gainsbourg, parce que Jean William était là aussi quand on a fréquenté énormément Serge Gainsbourg, qui était très ouvert au rock et à toutes nos cultures, qui avait fait Rock Around the Bunker, etc. Et lui reconnaissait ça. Enfin, il fallait trouver le mot qui claque, la rime, et c'est ça qui n'est pas facile.
Oui, enfin, c'est quand même une belle langue, le français. Si on ne peut pas écrire ou chanter en français. Moi, quand on me présente un groupe italien, j'aime qu'il chante en italien. Quand on me présente un groupe espagnol ou mexicain, j'aime qu'il chante en espagnol. Voilà, l'anglais, ce n'est pas la peine d'être inféodé comme ça à cet impérialisme américain de la langue. Voilà, on a déjà la musique, c'est déjà pas mal.
Oui, il y a évidemment plein de contre-exemples dans l'histoire du rock français, et donc dans ce livre... Mais
attendez, alors, si on regarde tous les groupes qui ont cartonné en France, chantés en français, que ce soit Trust, Indochine, J'ai demandé à la Lune, Trust antisocial, Téléphone, des groupes qui ont vendu, je parle
oui,
de
Oui, contre-exemple
Noir
à ceux qui
Désir.
Prétendent que le français n'est pas une langue de rock, c'est ce
voilà,
que je voulais
Désir,
dire.
Voilà, Tostaki... Voilà, il y a plus ça va. Et Bébé Brune, encore aujourd'hui, on voit bien que le groupe qui chante en français, alors qu'au Gibus, il y avait des groupes qui chantaient en anglais, c'est le groupe qui chantait en français et qui chantait le plus. Et qui avait, une façon assez diabolique avec les mots, parce que Adrien est un très bon écrivain. Et le truc des Bébés Brunes, le « Dis-moi !» qui était à la place du « Oh yeah !» Ils ont trouvé la traduction de « Oh yeah !» 35 ans après les Beatles. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que le mouvement continue, que l'adaptation n'est pas terminée.
C'est surtout une question d'écriture et d'interprétation. Hein. C'est-à-dire, par exemple, Johnny, il a vraiment trouvé un phrasé et une manière d'accentuer. Comme le français n'a pas vraiment... il est assez plat, donc on le fait comme on veut. Et quand on dit « à que je travaille » ou des choses comme ça, comme Johnny a inventé, voilà, c'est comme on veut, c'est une question de talent. Je pense que c'est ça. Le français peut s'y prêter après condition qu'on veuille et qu'on en ait la capacité.
Johnny, c'est un vrai problème aussi pour le rock français, car beaucoup déclarent ceux qui chantaient en anglais, c'est ceux qui ont essayé de chanter en français et ils sonnaient comme des petits Johnny ou des bébés Johnny ou des Johnny amateurs. Et donc, c'est vrai que Johnny a mis son empreinte. Et comme il est toujours là, l'empreinte est là, le bonhomme est là, c'est très... Dans le livre, il y a le chanteur de Wild Child, on nous explique, dès qu'il chantait, quand il chantait en anglais, on pouvait se dire, voilà, un grand rival d'Iggy Pop, dès qu'il chantait en français, on se disait, c'est quoi le sous Johnny Hallyday? Donc ça, c'est très, très, très difficile pour les chanteurs.
Alors, il faut que je fasse jongler mes camarades en régie, donc je leur annonce que je voudrais qu'on entende maintenant Nino Ferrer, parce que Nino Ferrer, c'est celui quand même qui, dans les années 60, à la fois chante rock, à la fois chante soul, à la fois chante brésilien aussi
rhythm
par moment.
Blues.
Quelque chose quand même d'absolument extraordinaire, immense.
Il joue de la basse,
Nino Ferrer.
Il joue de la basse en chantant, ce qui est quand même considéré comme un des trucs
les plus difficiles par rapport au rythme.
Steve McCartney, Nino Ferrer.
Ce serait quand même beaucoup moins drôle si c'était pas en français, non?
Ah ce serait beaucoup moins beau, surtout moins drôle, moins beau. On écoute un tout petit peu Nino Ferrer.
Il a réussi à faire swinguer les cornichons.
Ouais, là c'est pas des cornichons, mais je veux être noir.
Monsieur James Brown, s'il vous plaît, dites-moi comment vous faites, Monsieur Charles, Monsieur King, Monsieur Brown. Moi je fais de mon mieux pour chanter comme vous, mais je ne peux pas grand chose, je ne peux rien du tout. Je crois que c'est la couleur de ma peau qui ne va pas. Monsieur Phobus, hey, dis-moi comment les blancs font pour vendre les nègres à l'Argus et pour en brûler de temps en temps. Et moi je fais de mon mieux pour ne pas y penser. Je me sens très souvent très très embarrassé par la couleur de ma peau qui me démoralise un petit peu. Je voudrais être noir.
qui chantaient tout de blanc vêtus dans les verts pâturages près de lui. Dites-moi s'il vaut mieux pour entrer dans ce royaume avoir plutôt la peau noire ou plutôt la peau jaune. Et si le blanc n'est pas une couleur déconseillée parmi vous, quoi qu'il en soit, je voudrais être noir. 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 Noir, noir, noir. Oui, tout noir. Avec une belle couleur d'épée, des cheveux très crus, et puis je voudrais inviter ma femme au pouvoir chanter tous les soirs.
Bravo Nino, ouais, bravo Nino. Non, mais moi je suis pour pour qu'il occupe la place qu'il mérite, qui est très grande, celle de Nino Ferrer. Voilà un exemple. Et en même temps, c'est ce qu'on disait pendant qu'on nous écoutions le morceau. Le morceau parle de cette difficulté à chanter en français ces musiques-là qui ne sont pas les musiques qui sont nées dans notre beau pays. En l'occurrence, donc plutôt la soul. Alors là, ça renvoie aussi aux passions respectives. Alors, pour le Godfather of Soul, pour James Brown. Parlez de cet aspect aussi de vos vies qui font de vous toujours des fanatiques. Hein, les fans, ce sont quand même des fanatiques. Le mot est fort. Là, pour le coup, il y a une attitude du fan. Vous avez raconté, Philippe Manœuvre, avoir rencontré un certain nombre de fois James Brown, mais l'avoir aussi attendu au bord d'une route pendant 3 jours.
Ben oui, non, mais c'est normal. Moi, c'était mon métier hein, pendant des années avant d'être... plus âgé et devenir rédacteur en chef de Rock et Folk, j'étais rock critique. Donc, ça voulait dire toutes les semaines, on partait en mission quelque part. J'ai fait 2 ou 3 fois le tour du monde. Je suis fier de le dire grâce au rock et uniquement grâce à ça. J'ai suivi plein de groupes en tournée, mais c'est vrai que c'était des personnages difficiles. Dans le cas de James Brown, peut-être le plus difficile de tous, à égalité avec Lou Reed. Mais au niveau de l'attente, Johnny Hallyday, c'est bien aussi. Bon, on a vécu ça.
Oui, mais en même temps, quand ils sont là, ils sont là.
Ah oui, quand ils sont là,
ils se donnent
à 110%. Ouais. Ils donnent des interviews qui bougeaient les choses. La musique bougeait les choses et les interviews allaient avec. C'était un souffle de liberté. Les types mettaient tout en question, n'avaient peur de rien. Ils se battaient pour des choses auxquelles on croyait. La liberté, le droit de dire ce qu'on ressent, le droit de faire la fête, le droit d'être amoureux d'une fille à la peau d'une autre couleur. Enfin, plein de trucs. On était pour, évidemment. Mais il y avait vraiment un sentiment de... On avançait, on allait de victoire en victoire. Il y a eu ce truc, il y a eu un... Moi, j'ai eu la chance, comme Jean-William, on a eu la chance de vivre la fin du truc. Puis alors, après l'arrivée du punk, où là, soudain, il s'est passé quelque chose, même d'historique. Mais on sentait que c'était historique quand le punk est arrivé. Jean-William était avec Bijou à Mont-de-Marsan. Là, on a vraiment... moi, j'ai vu les Pistols au Chalet du Lac. J'ai vu les Pistols... Après, Zermati a organisé tous ces fantastiques concerts avec les Clash, les Damned, les Stranglers. On s'est pris ça de plein fouet et évidemment, il y a eu une en France, immédiatement, les groupes se sont formés, Asphalt Jungle avec notre ami Eudeline, et puis tant d'autres, hein, 84 Flèches, Métal Urbain, enfin bon, on n'était pas d'accord avec tout le monde, on n'était pas amis avec tout le monde. Moi, les Métal Urbain et moi, on était un peu à couteau tiré à cause d'une rubrique, une chronique de 45 tours où j'avais trouvé que c'était pas si bien mixé que ça, alors après... Je venais me voir au Gibus, il me disait on t'attend à la sortie. Enfin voilà, des moments très durs dans la vie.
Le rock est aussi la bande-son des utopies et des mouvements de pensée, etc., sociaux.
Oui, mais justement,
si vous voulez, il y a eu des rocks produits par les communautés gong, produit son rock, le rock des communautés, c'est le rock du Larzac. C'est des gens qui faisaient 300 concerts par an, donc ça fait un sacré porte-parole.
Période MJC, oui.
Oui, dans les périodes Maison de la Culture, Maison des Jeunes et de la Culture, Gong et Magma. On tournait en France en jouant pratiquement, mais donnant 300 concerts par an chacun.
Après Little Bob aussi.
Little Bob, incroyable, vraiment les gladiateurs de la route. Et ensuite, après, le seul problème, c'est que ce pays est tout petit. En fait, la France, c'est grand comme le Texas. Et alors, un groupe texan, Il se dit, bon, bah, nous, on va aller à San Francisco, on va se faire la côte ouest. Nous, en France, on n'a plus que la France. Et il faut tourner en France, refaire et refaire toujours Montpellier.
La Belgique, si tout va bien.
Oui, et la Belgique et la Suisse, si tout va bien, on peut ajouter 3-4 concerts.
Et Québec, alors là, c'est vraiment la consécration.
Et voilà, le Québec, bon, c'est la noix, la cerise sur le gâteau.
Mais là, ce que vous racontez là, mais l'un comme l'autre, c'est aussi être rock critique, c'est écrire la légende, c'est participer aussi quand même de la fabrication, de l'épopée, c'est de mettre aussi ces figures-là à un niveau,
c'est même pas qu'on a participé à la fabrication de l'épopée, on a dit, nous, là, il y a épopée, on l'a créé l'épopée.
Mais ça fait partie de l'épopée, ça.
C'est nous qui avons dit que c'était une épopée, sinon les gens, c'était des 45 tours qu'ils achetaient. Je pense que c'est les rock critiques. Franchement, j'en parlais avec Philippe Garnier, qui est sorti du jeu, qui écrit ses récits de voyage, etc., qui était le grand rock critique de Rock et Folk, puis Libération, et Garnier disait, mais enfin, c'est nous qui avons inventé que Captain Beefheart, c'est nous, c'est nos idées.
Voilà un nom que j'attendais, tiens.
Voilà.
Impatiemment.
Une pure invention de la rock critique, c'est Captain Beefheart. Mais ça a eu un succès et un écho fantastique.
Et repris par les groupes après.
Mais les gens avaient besoin qu'on leur raconte des légendes.
Il y a aussi un rock pour rock critique qui ne fait pas le crossover, c'est-à-dire qui ne va pas dans le grand public. C'est le cas du Captain Beefheart, par exemple.
Mais Captain Beefheart, qui est revendiqué par Wire, Cure et tous ces groupes qui arrivent à la fin des années 70, ils revendiquent Captain Beefheart.
Oui, absolument. Et même les Sex Pistols, oui. Johnny Rotten était totalement fan. Oui, c'est important, c'est le blues dadaïste déstructuré, mais si, moi je pense, c'est vraiment ça. C'est des types qui jouent du blues en le déstructurant, mais comme c'est un langage extrêmement connu, à l'époque où ils font ça, on continue à comprendre. Et il colle un argot moderne en reprenant les concepts des blues de Chicago ancestraux. Il fait finalement ce qu'a fait sans doute Robert Johnson à la musique africaine en 1936. Il y a toujours une modernisation par le langage. En 1936, on parlait de ta régulière dans une chanson. Aujourd'hui, tu dis ta régulière, tu fais rimer avec quoi? Ça n'existe plus, ce mot-là. Ta milf, tu peux parler de ta milf. Voilà, chaque époque amène son nouveau langage. Et c'est fabuleux, l'histoire du rock, de voir comment les gamins se sont attaqués à ça. Il y a des gens qui ont fait des choses remarquables, même les... Il y a une tentative, quoi, de réduction du monde à son langage. Et c'est très important, quoi, ce mouvement rock.
Mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure de la possibilité d'une certaine nostalgie qui n'est pas toujours la même selon... nous, on l'entend d'une certaine façon, visiblement, nous trois, d'autres l'entendent autrement. Il y a moins d'un an, je crois, il y avait un questionnaire, je ne sais plus dans quel journal, peut-être Libération, un journal de musique, sur les influences des chanteurs qui ont 20-30 ans aujourd'hui. Et c'était Léo Ferré, Barbara, Crosby, Stills, Nash & Young, Bob Dylan. Et rien entre la fin, disons, des années 60 et aujourd'hui.
Mais c'est plus facile de se référer à quelque chose de lointain que de proche. Parce que quelque chose de proche, c'est encore un concurrent ou quelqu'un dont on veut se démarquer. Je pense que c'est plus facile d'aimer ses grands-parents que ses parents, quoi.
Ouais, mais il n'y avait pas Captain Beefheart, pour le coup.
Beefheart a disparu. Attendez, ça fait... Mais je dis, à un moment, dans le livre, on ne peut pas comprendre les années 60 en France si on ne comprend pas qu'il y avait les deux mamelles tutélaires, Frank Zappa, Captain Beefheart. Mais c'est des choses qui disparaissent.
Mais Zappa est resté.
C'est les... Vous savez, parce que les fils Zappa jouent au Zénith lundi et s'acharnent à maintenir la musique de leur papa.
Là, on touche au problème du fait de savoir si le rock est intelligent ou pas. Et le vrai rock'n'roll de base est considéré comme pas intelligent, inculte,
et même
etc.
Crétin.
Et Frank Zappa donnait cette caution plus intellectuelle, plus facile. On peut se réclamer de Frank Zappa sans passer pour un crétin.
Voilà, c'est que Zappa, beaucoup, ça. En discussion, disait qu'il écoutait Varese, donc ce qui était immédiatement bien perçu.
Mieux que Slade. Mais ce qui pose aussi la question, et quand on fait une histoire finalement avec ce livre chez Beck, Rock français, c'est aussi une histoire de ces 50 ans de rock français, c'est-à-dire la question de savoir qu'est-ce qui, dans la culture populaire, devient... À un moment donné, de la culture classique, voire de la culture savante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Gainsbourg, ça, j'imagine que beaucoup de gens connaissent. Ronnie Bird, ça commence à être déjà moins connu. Si je tourne comme ça au hasard les pages, j'imagine que je vais tomber. Zou, évidemment.
C'est pas la culture savante.
Mais pourquoi ça ne le deviendrait pas? Et en quoi ce serait d'ailleurs un problème que ça le devienne?
Parce que ça demande pas d'initiation en particulier.
Moi, je pense que là, grâce à ce livre, beaucoup de jeunes qui se posaient des questions sur le rock français peuvent trouver les pistes. Ils peuvent aller. Tous les noms sont cités, ils peuvent aller écouter sur Internet, ils sont à 2-3 clics.
Que ça devienne des classiques du genre, oui. Ça, C'est pas de la culture savante pour autant. C'est des classiques parce que voilà, c'est pérennisé, ça rentre, ça a influencé d'autres gens qui sont venus après, etc.
Mais encore une
on
fois,
peut c'est écouter avec plaisir. Surtout.
C'est ouais. Tout sauf péjoratif dans ma bouche et que le rock devienne partie prenante de la culture classique. Quand effectivement, Philippe Manœuvre, vous étiez juré de la Nouvelle Star.
Moi, j'ai tout fait.
Chaque
pour.
Fois que quand moi, vous donnez la parole pour parler d'un morceau, vous donniez la référence, l'historique, la première création, etc.
Mais ça, c'est une culture.
Et ça, c'est un travail, comme disait Danet, de passeur quand même vers la
oui,
jeunesse.
Oui, alors si on est très sympa, on peut dire que c'est un travail de passeur, on peut dire que c'est,
je
de,
suis très sympa,
c'est de la culture, non, ouais. Mais nous on voulait dire aux gens, voilà, voilà ce qui s'est passé, regardez, parce qu'on a une espèce de, les Français ne sont pas fiers de leurs exploits, c'est dramatique, si vous regardez en France, vous tapez Led Zeppelin sur un moteur de recherche, tous les auteurs français ont écrit leur petit truc sur Led Zeppelin, et sur le rock français, il n'y a rien. Mais rien, il y a zéro référence.
Ouais, quand on parle avec un rocker américain, il aime Elvis Presley. Ça, c'est systématique. Hein. Il n'y en a pratiquement pas un qui soit une exception à ça. Et ici, les gars, ils ne vous parlent jamais de Johnny ou des chaussettes et tout ça. Non. Et ça, c'est bien dommage que le rock français ne construise pas sur sa propre culture, ne la digère pas et ne la transforme pas par son apport. Il se réfère toujours à la culture américaine ou anglaise, jamais à la culture française, et c'est un peu dommage.
Donc nous, voilà, on a voulu, moi j'ai assez fait pour le rock américain anglo-saxon, on peut pas me faire de reproches de ce côté-là, mais là je trouvais que moi il y avait une carence, une béance quoi, une espèce, mais pourquoi?
Oui, parce que ça peut coexister quoi, l'un n'empêche pas l'autre.
L'un n'empêche pas l'autre, mais nous, moi je pense, comme tout le monde, on a toujours eu le rock français au cœur, et en plus... Il y a eu longtemps une malédiction de ce rock français qui vient de s'abattre à cause de la French Touch. Tant, à partir de Burgala, R, le groupe R, pas la comédie musicale.
Ah,
Burgala,
hier,
R,
ça y est.
Phoenix,
Sébastien Tellier.
Tout ça porté par Gainsbourg.
Daft Punk, bien sûr.
Tout ça porté par une espèce d'envahissement de Gainsbourg international. Aujourd'hui, quand vous allez à New York, vous trouvez les disques de Gainsbourg. Massiera, Jean-Pierre Massiera, Françoise Hardy, qui est très très collectionné par les anglo-saxons, allez savoir que se passe-t-il de ce côté-là, mais enfin on voit maintenant chez Tower à New York, il y avait des bacs musique française où on trouvait tout ça, y compris La Mano Negra, groupe français qui chante en espagnol, et ça a bien fonctionné aussi, comme Manu Chao. Donc vous voyez, cette espèce de problème du langage, vous avez à la fois R qui fait Sexy Boy, truc compréhensible par les Français, par les anglo-saxons, et qui devient numéro un monde. Non mais moi je trouve que on est en progrès constant. C'est vrai, si je devais distribuer des médailles, ça n'a jamais été mieux. Phoenix a joué au Hollywood Bowl la semaine dernière. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux pas dire le rock français va mal. Et j'ai un copain qui était là-bas, je dis, mais c'est quoi dans la salle? C'est le lycée français, Martinon et tout là. Il me dit, pas du tout, il n'y a que des Américains. Les Américains, ils trouvent ça super. Ça fait un peu comme Alfred Manjou, qui avait un accent français très, très typé. Et puis nous, je veux dire, on a bien accueilli Jane Birkin et son accent anglais qu'elle a réussi à conserver 45 ans. Donc là, maintenant, les Phoenix partent en Amérique et chantent en anglais et avec un accent français très prononcé. Ça plaît énormément, donc je suis obligé de dire que ça va bien.
Et un peu de musique, un peu de rock, du rock français chanté en français. C'est un groupe qui n'existe plus, hélas, mais j'ai une tendresse particulière. C'est le groupe Dolly. On écoute Je ne veux pas rester sage, c'était sorti en 97.
Pourrait me faire crever.
Dolly. 1997, Dolly, dans cette émission de Radio Libre, dont l'invité est aujourd'hui en fait la musique.
Davantage Dolly, peut-être. Symbolique, hein, le groupe provincial, le groupe qui tourne énormément, le groupe qui a un tube que les radios Ferrarock vont porter, parce qu'il y a des petits réseaux en France, tout petits.
Fédération des radios de rock,
Ferrarock. Voilà, hein. Une fédération des radios rock existait à l'époque, était très active, tout ça un petit peu en voie d'épiètement. C'est très difficile aujourd'hui de faire du rock en France, parce qu'il y a des lois abominables sur la nuisance sonore qui interdisent pratiquement à soit de passer un disque.
Tous les bars où il y avait des concerts, ça a été le problème dans beaucoup de villes. Mais justement, puisque avec vous, Philippe Manœuvre et Jean-William Toury, on parle de l'histoire de ce rock français, je voulais faire un peu de géographie, parce que Dolly, donc, c'est Nantes, Rennes, Dao, Marquis de Sade, Lyon, Starshooter, Montpellier, OTH. Si on fait la géographie maintenant.
Il y a Bordeaux, qui s'est pris longtemps. D'ailleurs, Bordeaux qui croit que le rock, c'est le football, qui pense toujours qu'ils sont en championnat de quelque chose. Les Bordelais, assez. Comique, quoi. Faudrait leur dire que bon, c'est pas une course de lévrier la musique, mais un jour ils comprendront peut-être. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est vrai, chaque région nous a donné quelque chose. Casse Product, ça venait de l'Est. Enfin,
c'est Nancy, je crois.
De Nancy, oui, il y a vraiment.
Mais alors, quelle place occupe Paris, justement, dans cette géographie du rock
Paris,
français
c'est très difficile, Jean-William.
C'est une place capitale. Déjà, les maisons de disques étant à Paris, les groupes de la région sont favorisés. Je pense qu'il y a quand même un parisianisme qui s'exerce.
Mais c'est le lieu de la confirmation, de la consécration. C'est, si on veut réussir...
Non, on peut toujours être indépendant, mais c'est difficile.
Il est
en
raconté,
dehors des grandes maisons de disques, des radios, des télés, c'est quand même assez difficile.
Non, mais il est raconté. C'est vrai que OTH étant resté à Montpellier, n'ayant pas voulu venir à Paris, n'a peut-être pas eu la carrière qu'ils auraient pu avoir. Pascal Comelade, on le sait, pour le sortir des Pyrénées Orientales, c'est compliqué, mais c'est un.
Des contre-exemples,
ce sont des choix.
Ange, qui n'avait jamais voulu vraiment quitter Belfort et qui a fait un carton avec des disques d'or. Donc, il n'y a pas de règle sans exception, apparemment.
Mais il y a des lieux.
Si vous voulez, Paris, c'est à la fois très sympa et très cruel. N'importe quel groupe en province, ils ont des salles de répétition fournies par la mairie, une structure, une aide qui n'existe pas à Paris. Car à Paris, la mairie de Paris, Christophe Girard en tête, ne souhaite pas aider. Pourquoi ils aideraient les groupes de rock? Il y a 111 spectacles vivants par jour dans la capitale. On ne peut pas dire qu'on est en manque de spectacles vivants. Donc il y a un petit côté, chacun se débrouille comme il peut. Quelques clubs qui aident, avec des patrons de clubs comme le Gibus, le Triptyque, des endroits où on arrive, Bus Palladium, où on arrive à faire des petits, la Flèche d'Or. Donc il y a quelques clubs comme ça qui
tiennent.
Très peu
d'endroits pour une si grande ville quand même.
Oui. Mais voilà, pour une si grande ville par rapport à des villes comme Boston ou New York, on a très 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 peu d'endroits pour le rock. Mais on maintient. Il y a quand même un petit flambeau et allumé dans la nuit.
Alors, pour maintenir le flambeau allumé...
Non, parce que l'idée que les groupes parisiens sont plus proches des maisons de disques, vous savez, les maisons de disques n'ont plus vraiment un rôle...
Mais dans cette histoire-là, ça a compté, l'éloignement géographique. Là, en 2010, certes, l'éloignement joue de façon bien
c'est sûr,
moindre.
Si tu joues régulièrement au Gibus, tu as plus de chances qu'un directeur artistique vienne te voir et t'engage. Si tu habites à l'autre bout du pays, tu ne vas pas jouer toutes les semaines au Gibus.
Et puis il y avait le problème des disquaires aussi.
Il y a un problème technique évident.
On venait beaucoup se fournir à Paris, il y a encore pas si longtemps. On allait chercher certains disquaires qui ont la plupart fermé.
Du temps où on achetait des disques.
Du temps où on achetait des disques. Non mais Paris, c'était aussi la place où on pouvait trouver.
Oui, bien sûr, c'est quand même la ville la plus importante.
Vous confirmez
maintenant, dans chaque ville de province, il y a des réseaux, des disquaires. Je les connais tous parce que pour finir le livre, il a fallu trouver toutes les pochettes vinyles pour avoir les bonnes reproductions. J'ai passé un temps fou avec le silence de la rue, les troubadours du chaos, enfin tous ces disquaires de province fabuleux. Monster Melody à Paris, les gens des puces de Saint-Ouen, le Yeti. Vous savez, il reste un énorme... En ce moment, en France, le vinyle repart de plus belle. Et c'est un espèce de gigantesque pied de nez à l'industrie et à ces diktats adopiens. Là. Eux, les gamins, eux, ils disent finalement le vinyle, c'était le bon format, les bonnes pochettes, le bon son, les beaux objets rock, c'est ça. Finalement avoir un disque de OTH en vinyle ou des Berrues, on a une tranche d'histoire, quoi. On a un vrai joli, on a un petit témoignage de quelque chose qui s'est rebellé à l'époque. Quoi.
Alors les Berruriers Noirs.
Hey, hey, hey.
Berrurier Noir, c'est l'album concerto pour Détraquer 1985, le morceau Les Rebelles, et il y avait un débat qui s'engageait d'historien autour de cette table.
Rock. C'est l'arrivée du troupeau de rock qui se battait contre les commandos Pernod.
Oui, et il y a un moment quand même où le bras de fer entre des indépendants, très indépendants, et les grandes maisons de disques a été très tendu.
Oui, c'était l'époque des Beru, effectivement, où il y avait, si la Mano Negra n'avait pas signé avec une major, s'ils étaient restés indépendants, clairement, là, ils avaient sorti les majors du jeu, puisque tout se serait joué entre des groupes indépendants qui avaient inventé un circuit. C'est la vieille tentation du réseau. Le français aime bien l'indépendance, et donc il y a ça à l'intérieur du rock français. Il y a aussi cette bataille contre les diktats des majors, une bataille, c'est une agitation permanente.
Parce que dans cette histoire du rock français, Jean-William Thory, il y a une histoire aussi à la fois économique, sociologique, idéologique, politique. Effectivement, la relation aux majors, elle est dans en sous-texte, mais elle est là.
C'est petit label, petite structure indépendante, en fait, n'ont qu'une idée, qu'une envie, c'est de devenir un majeur à leur tour.
Certes.
Donc, ils ont perdu Mano Negra, mais bon, voilà, c'est juste une question d'argent. Moi, j'y crois pas trop à cette histoire-là.
Mais cette question-là, avec Bijou, comment est-ce que vous l'abordiez, vous? Comment est-ce que vous la pensiez
nous,
à ce moment?
Nous voulions être sur une majeure, et c'est ce qu'on a fait. Parce qu'on voulait être bien distribué, que nos disques soient bien enregistrés, et c'était pas la peine de se faire avoir par des potes, ou mieux se faire avoir par des gens dans ce métier.
Ah, je fais un pont très large, mais je reviens à cette expérience de jurer la nouvelle star, parce qu'une fois que les Enfants du Rock ferment en 87, il faut attendre 20 ans quasiment donc, pour vous revoir vraiment de façon régulière, Philippe Manœuvre, sur les antennes hertziennes de la télévision. Revenir là, c'était aussi continuer l'apostolat pour la musique rock.
Et je me suis dit, en fait, ils vont voir un rocker à la télévision, quoi. Ils n'ont pas vu ça depuis 20 ans, ils vont se le prendre de plein fouet, c'était mon souhait, et comme la chaîne j'ai tout demandé, je voulais garder mes vêtements. Ma théorie, c'était si j'ai mis ces vêtements au Gibus, je peux les mettre à la télévision française, sinon ça n'a pas d'intérêt. Garder mes lunettes noires, enfin tout pareil.
Mettre mon pied sur le
je sortais de 3 ans au Gibus où j'avais géré avec Jean-William, avec Yarol Poupeau, avec un certain nombre de quelques copains, Busty, une journaliste, Géant Vert. On avait géré cette incroyable explosion de 40 jeunes groupes. On voyait bien que ça allait pas être facile. Et en même temps, les candidats de la Nouvelle Star, certains auraient pu être dans des groupes. Clairement, certains avaient une espèce de souffle rock, d'ailleurs. Ils avaient ça en eux, quoi. Ils avaient cette espèce de violence non feinte, qui est un peu le truc du rock.
Mais c'est vrai que, voilà, 20 ans entre les deux, entre l'expérience des Enfants du Rock, il faut rendre hommage à Pierre Desgroupes qui a beaucoup fait pour la télévision française avec les Enfants du Rock, avec Cinéma, enfin avec des émissions qui sont sans doute les plus regrettées aujourd'hui. C'était quand même mais une sorte de parenthèse enchantée pour le rock à la télévision.
Oui, parce que on a pu montrer, on a vu Bijou donner un concert. Ça existe, c'est en archive. Franchement, il y a la période Enfant du Rock qui dure de 82 à 87. C'est une petite parenthèse de 5 ans dont tout le monde continue.
Il y avait eu Chorus avant, hein, d'ailleurs, qui ressort en DVD, là, je crois, bientôt.
De 79 à 81. Donc, avant Chorus, il y avait eu l'émission de Freddy Auxerre.
Ouais.
Et avant Freddy Auxerre, il y avait eu Pop 2 et Bouton Rouge.
Ouais,
c'est-à-dire qu'en fait, de 67 à 87, il y a eu du rock à la télévision.
Une fenêtre qui s'est agrandie.
Voilà, une petite fenêtre.
Et tout d'un coup, on ferme.
Et puis, ça s'est refermé très brutalement. Et moi, je pense que c'est très dommage.
Comment
pour
vous comprenez ça, cette fermeture-là?
Moi, je le comprends et Antoine Decaune, avec qui j'en parlais récemment, pareil, une peur des dirigeants de se dire à quoi ça va servir, qui sont ces gens, est-ce qu'on a envie de mettre une jeunesse ébouriffée, toujours partante pour.
C'est pas dans leur culture, hein, de toute façon.
Je crois que c'est vraiment pas dans la culture française, quoi. On n'a pas compris qu'il y avait eu. Là, quand on lit ce livre, on voit bien qu'il y a 123 histoires, mais des destins humains fabuleux. Parce qu'en fait, le rock a remplacé. Les rockers ont remplacé les soldats, les militaires, enfin tous les gens qui auraient pu. Mais oui, qui va raconter l'époque mieux que Keith Richard ou Led Zeppelin, Jimmy Page? Qui va raconter? Eux, ils ont vécu l'époque exactement comme des Patton ou des De Gaulle. C'est des gens dont les décisions ont été suivies par des millions de gens et dont les chansons, ils nous ont juste donné de la musique.
Un peu moins de victimes.
Mais c'est vraiment une histoire étonnante. Et Bon, ça ne m'étonne pas, franchement, de la
Il faudrait
France.
Que le rock garantisse un automat fabuleux pour s'imposer.
Mais il y a eu aussi peut-être la multiplicité des chaînes. Ça correspond aussi au lancement de TV6. Donc, on s'est dit la musique, c'est pour la 6. Comme on se dit la culture, c'est pour Arte. Comme ça, on s'en débarrasse. On n'a plus besoin d'en mettre dans les autres chaînes.
Il est clair qu'au moment de la disparition des enfants du rock... On est allé voir les patrons des majors, mais eux, ça ne les intéressait plus parce qu'ils nous disaient, nous, on est rentrés dans un processus industriel, merci, vous avez fait du bon boulot, mais maintenant, MTV va prendre ça en
oui,
main.
MTV.
Et les chaînes musicales vont répondre à toutes nos questions, ne bougez pas, vous allez voir. Et on a vu. Mais bon, voilà. Non, mais d'où ? Moi, je suis très content, j'ai fait mon boulot, j'avais 25 ans, on m'a appelé, j'ai fait, très bien, voilà, c'était une très jolie parenthèse, les enfants du rock, mais... ma vie, ma carrière, tout s'est pas arrêté là du tout. Après, il y avait des choses à faire, des livres à écrire.
Que pour l'établissement, le rock'n'roll, ce qu'on appelle vraiment le rock'n'roll, c'est quand même une musique qui reste une musique d'idiot. Et c'est pas du tout comme le jazz, ni comme le blues, ni comme le folk, ni comme la chanson française. Il n'y a aucune considération. Donc, comme c'est pas non plus la musique la plus commerciale en matière de vente ou d'audimat, ce qui fait qu'il se retrouve complètement coincé.
Mais elle peut le devenir. C'est-à-dire que c'est une musique qui peut devenir ultra commerciale. Là-dedans, il y a
peut,
un certain
oui,
nombre de
sûr,
disques qui ont dépassé le cap incroyable, inouï des 2 millions d'exemplaires. Disque de Noir Désir, disque de Trust, disque de Johnny Hallyday. Enfin bon, quand ça cartonne, ça nous arrive de faire des choses qui deviennent des... Alors après, on dit plus c'est un groupe de rock, on dit c'est un phénomène de société. Mais là, ça devient... Si vous dépassez les 2 millions, vous voyez, il y a ce côté, ah non, c'est plus des rockers, c'est un phénomène de société.
Le rock est une spécialité à l'intérieur de la variété. Mais dès que les ventes deviennent énormes, bon, ça rejoint la variété. C'est-à-dire à ce moment-là, on rentre dans les autres programmes et... Alors, sur les autres médias.
Pour finir, on a encore une vingtaine de minutes devant nous, mais on va passer encore deux morceaux. Vous êtes venu d'ailleurs, Philippe Manœuvre, à venir avec un album ou un extrait plutôt des Variations, 1970. Quelques mots sur les Variations avant de les écouter.
Pour moi, le Led Zeppelin français. Vraiment, quatre.
Oui, c'est bien.
C'est bien quand même, ça vous
Oui, d'ailleurs, les Variations incorporaient pas mal d'influences arabes, parce qu'ils sont originaires du Maroc, avec Darbouka, percussion, etc., bien avant les Zeppelin. Et c'était un mélange de rock hard à la Who et à la Stones, avec ces influences donc nord-africaines. Et ils avaient eu énormément d'énergie, ils tournaient beaucoup en France, et c'était vraiment une exception. Oui.
Alors, une exception aussi, parce que le morceau qu'on va écouter, je crois, n'est pas dans celui du livre.
C'est le 45 tours, parce que voilà, souvent, les albums étaient les albums, et alors, pour faire la publicité, on demandait au groupe d'aller refaire un morceau qui était le 45 tours. Deep Purple, c'était Black Knight, qui était le 45 tours d'appel. Les Beach Boys, Good Vibration, qui était le 45 tours d'appel de Pet Sounds. Les Beatles, c'était Penny Lane, l'appel de Sgt Pepper. Et donc, les Variations, il y avait ce « Je suis juste un rock'n'roller » en français, avec un texte invraisemblable. Il faut vraiment l'écouter pour le croire.
C'est le texte de Patrice Michel.
Ouais, et c'est pour moi, voilà, Marc Tobali, Joe Leb, Jackie Bitton, Petit Pois, enfin voilà, c'est des gens, pour moi, j'en parle avec un très grand respect.
C'est un archétype du groupe de rock, en plus. Ouais,
vraiment.
La frime, la manière de...
Quand on les voit, oui,
la coiffure,
et c'est Patrick
Oedlin,
qui chroniquait ça, qui parle de l'époque où...
Les excès aussi.
Au volant d'une Mini Cooper, on allait acheter des vestes à franges, avenue de la Grande Armée, chez Western House. C'était le top, en somme, dit-il. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça représentait un absolu du bonheur.
La belle vie, quoi.
Ouais, c'était la belle vie.
Ben, on écoute donc les Variations.
Est-ce que tu vois ce que cela
variations dans Radio Libre sur France Culture pour cette émission tout à fait spéciale en compagnie de Jean-William Toury et Philippe Manœuvre pour parler de ce livre rock français publié chez Eubek. Pour l'instant, la programmation musicale, je dois dire, est tout à fait réjouissante et très contrastée comme cette histoire-là, finalement. On a évoqué le passé au sein du groupe Bijoux de Jean-William Toury. La tentation du passage à l'acte, Philippe Manœuvre, est-ce que vous l'avez eue?
Non. Moi,
oh,
c'est
menteur.
Il est dénoncé.
La tentation. Aussi.
Plusieurs fois, des gens, oui, m'ont demandé de. Bah, j'ai même fait le Palais des Sports en première partie de Johnny. Alors donc, oui, je peux pas dire que je suis avec les TV Boys, avec Alain Chabat. Ouais. Mais là encore, on a fait un groupe farce parce que c'est plus facile.
C'était un peu Salvador et Boris Vian là.
Voilà, on a fait ça en se disant bon bah au cas où, si ça marche, on sera très content de faire
des marques des Beastie Boys hein, pour rappeler à celles et ceux qui n'ont pas trop oublié.
Et ça s'est fini.
Pas un groupe qui s'appelait les Rock Critics.
Et il y a eu le groupe les Rock Critics en 77, mais nous on est resté. C'était un groupe qui répétait énormément, qui n'a jamais donné de concert.
C'est ce qu'il y a de mieux.
Nous se succédaient tous les Rock Critics parisiens. On a vraiment c'était des. C'est très difficile en fait. C'est un art très difficile. Il faut apprendre aux gens ce que c'est qu'un groupe. Mais c'est un art très difficile, mais qui en vaut la peine, car quand par moment ça se met en place, quand un groupe quand quatre types enfoncent le même clou, ils l'enfoncent vraiment plus profond. Ça va plus loin. Il y a, là, quand on écoute ces variations, ça, je veux dire, ils swingent, il y a quelque chose. Quoi. On sent que tout est là. Il y a quatre mecs qui sont exactement au même niveau. Le chanteur est un peu tronc enterré dans le mix. Mais c'est ça, le rock. Il faut prêter l'oreille. Et du coup, on entend mieux la batterie. Bon, voilà, c'était tout ce qu'on... Nous, c'est tout ce qu'on a aimé. Et des trucs comme ça, il y en a plein le bouquin. Je veux dire, si en ce moment, la jeunesse passionne pour le rock, ça aurait été dommage de ne pas lui donner les pistes de ce rock français.
Ouais, je parlais de vous en même temps, Philippe Manœuvre. Vous avez évidemment changé en cours de route dans votre réponse.
Oui, parce que non, mais j'ai pas envie de parler de moi, c'est trop réducteur. On a fait un boulot où moi je m'efface, on est 35.
Bien sûr. Mais je parlais de la possible tentation de connaître ce frisson-là.
Oui,
cette émotion-là,
connu,
là,
j'ai fait le Palais des Sports, en première partie de Johnny fois, ça va. Je suis monté sur scène pour présenter Louis Bertignac et les visiteurs en première partie de Madonna. Il y avait 120 000, 150 000, on n'a jamais su. Ouais. Monsieur Camus a peut-être 30 000 tickets dans la poche de différence, mais à l'époque, ça
faisait
une forte marée humaine et la tentation de s'évanouir était grande. Vous parlez à autant de monde d'un coup, vous entendez. Donc j'ai compris la vibe, j'ai compris ce que ça demandait d'en faire son métier, le courage, la gestion du stress aussi, qui est pas la même chez tout le monde. Ça, j'ai eu l'occasion d'expliquer ça aux petits concurrents de la Nouvelle Star, mais quelqu'un qui arrive à gérer le stress et en faire son moteur part sur des hauteurs incroyables. Oui, c'est des très grandes joies, cette musique, ce partage communautaire de la musique. Mais on n'a pas besoin d'être 150 000 non plus, puisque nous, quand on était au Gibus, les vendredis, les Rock'n'Roll Friday, il y avait des soirs, on mettait trois groupes, chaque groupe jouait une demi-heure, c'était 5 euros l'entrée, tout ça était très... plafond.
Au contraire, c'est mieux.
Et des fois, avec 480 gamins dans le Gibus en folie, qui pogotent comme des malades, avec un groupe, ils sont en osmose. Quand on repartait, les gamins criaient dans la rue « Ouais, on est comme à New York !» Et vous voyez, ce côté, ça y est, grâce au rock'n'roll, on a vécu un truc américain, mais une place de la République. Et donc, il y avait à côté, le rêve absolu, quoi. Ça continue d'être le rêve des gamins, malheureusement.
Jean-William Toury, on a parlé de Bijoux, mais il y a eu beaucoup d'autres collaborations avec d'autres artistes. La pratique, pour vous aussi, être certes rock critique, mais aussi auteur, fabricant, ça compte?
Oui, ça compte bien sûr. Je pense que les deux activités se nourrissent l'une l'autre. C'est-à-dire que quand on est journaliste, on observe et on décortique les disques et les carrières des autres. Et on s'aperçoit de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui marche pas, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Enfin, selon son propre jugement, évidemment. Et ensuite, de le pratiquer, on s'aperçoit évidemment des difficultés, de tout ce qu'il y a entre le désir et ce qu'on concrétise. Et donc, on est peut-être un peu plus cool avec les autres. Et moi j'adore la création. Si j'avais pu, je n'aurais fait que ça même. Mais j'ai rien contre le journalisme.
La création, elle passe aussi dans l'écriture. Alors, il était sur mon bureau quand je suis arrivé aujourd'hui à la maison de la radio. Je ne l'ai pas encore lu, mais une somme qu'on attendait depuis quand même longtemps, celle signée Jean-William Toury sur Jean Vincent, dieu du rock'n'roll, chez Camion Blanc. Ça, c'est un travail qui est au-delà du simple fan, au-delà c'est un travail d'écriture pour vous, Jean-William Toury.
Oui, c'est un travail d'écriture. L'écriture, c'est sur environ une année, mais la connaissance de Gene Vincent et l'amour que j'ai pour lui, c'est une vie, quoi. Une vie. J'ai découvert Gene Vincent grâce aux Chaussettes Noires, qui sont donc d'excellents passeurs, des passerelles entre les pionniers américains et nous qui étions des jeunes Français. Et depuis que je connais Gene Vincent, il m'a jamais déçu, je l'écoute toujours, j'adore ça. Donc j'ai puisé dans toutes les archives, tous les sites, toutes les biographies, les films, etc. pour résumer sa vie dans un livre de 400 pages en français.
Et écrire sur ou écrire avec, vous avez eu l'occasion, Philippe Manœuvre, d'écrire sur et avec Paul Nareff, sur et avec Joe Starr. J'imagine que vous avez sans doute aussi décliné nombre de propositions.
Pas tant que ça, mais Paul Nareff et Joe Starr, ils voulaient tous les deux travailler avec moi. C'était ça un peu le truc. Ils avaient envie, et moi aussi, évidemment, ah oui. C'était fascinant, parce que moi, je me disais toujours, mais que font les chanteurs entre les concerts? Et là, je ne comprenais pas. C'était la grande carence. Mais j'avais toujours rencontré des chanteurs en promo, en tournée. Et entre les concerts, ils font quoi? Et là, j'ai été 2 ans avec Paul Nareff dans le désert et 9 mois avec Joe Starr à Paris. Et j'ai compris ce qu'ils faisaient entre les concerts. Et c'est pas toujours révélable. Mais ce qu'ils avaient décidé de montrer, je crois qu'il fallait le dire, il fallait le faire. Ils avaient envie de dire, bon, à un moment, j'ai besoin de faire un livre pour dire où j'en suis. Même c'était un peu un exercice pour eux de voir où ils en étaient à chaque fois. C'était ça qu'elle est. J'ai fait un peu un travail de psychiatro-managero-truc bizarre. Puis après, je suis reparti vers mes aventures et eux ont continué. Mais on se parle toujours, on communique. Michel Paul Nareff m'a appelé il y a une semaine pour me féliciter pour le bouquin. Et Joe Starr, on s'est parlé pour son anniversaire. Donc ouais, on est restés très amis. Et moi, ça m'a aidé à comprendre la difficulté en plus de ce métier. Parce que quand on parle de la carrière d'un Paul Nareff, c'est assez incroyable. Ça commence en 67 et ça continue en 2010. C'est toujours le disque le plus attendu de l'année par les Français, quoi. Depuis 20 ans. Donc on se dit, voilà quelqu'un qui a réussi au-delà, quoi, à continuer à exercer la fascination. Très peu d'artistes, si vous pensez le nombre de fous furieux qui sont des Jim Keltner, Scott Walker, enfin, qui ont craqué, qui ont perdu le pied, etc. Lui a tout seul réussi à tracer sa route. J'étais assez admiratif de ça. Voilà, quant à Joe Starr, c'est un ami pour la vie, quoi.
Ah, ça, c'est de beaux amis que vous avez là. Alors, il y a des jeunes amis aussi. On avait envie de finir l'émission avec eux qui auraient pu ou dû être avec nous en direct aujourd'hui. Ça n'a
mais
pas
qui
été
ne
possible.
Sont pas dans le livre encore.
Mais qui ne sont pas encore dans le livre encore. Ils n'ont pas fait l'album. Mais vous êtes venu avec un 45 tours et Bruno Nevdanski est très heureux de se servir de la platine disque qui est dans la régie du studio 168. Le groupe s'appelle The Prostitutes. Quelques mots, Philippe Manœuvre, pour les présenter. Ils sont d'abord ce soir en concert au Gibus.
Voilà, donc déjà, ils auraient pu être là avec nous cet après-midi, mais ils ont. Les Prostitutes, gang punk de Levallois et de Paris. Ils ont un mec à Paris, 3 à Levallois. Et ils ont une. Je suis fasciné par le fait qu'au moment d'Internet, Facebook et tout, eux, ce qui les intéresse, c'est Joe Strummer, le punk, les Sex Pistols, le Clash, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut continuer à faire, porter des perfectos en 2010, est-ce que c'est possible? Ils répondent. Voilà.
Wait a minute, something's happening. Humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. It strikes him head on. Lord, they're turning into flames. Ah! The whole field caught up by the woods of fires. There's gas tanks of the automobile spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right.
Gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill.
The Prostitutes, c'est tout le monde regardait le disque tourner sur la platine.
Eh oui, c'est le miracle du 45 tours vinyle, en vente chez Bornbad, rue Keller.
Rue Keller, et donc les Prostitutes.
Je pense que lundi, c'est ça, va bien dire. Alors, vous avez cité les Prostitutes 27 fois, plus deux noms de magasins de disques, trois adresses, ça ne va pas du tout.
Ça ne va pas, mais enfin, ils sont donc ce soir au Gibus. Les Prostitutes, le livre rock français, il est publié aux éditions Ebec. On a écouté quelques morceaux, dont celui-ci qui n'est pas dans le livre, mais il y en a 123 albums qui sont cités. Et il y aura peut-être pas 123 auteurs, mais un certain nombre. Le
35. Alors le 19 décembre, c'est un dimanche, Opus de Clignancourt, autour du Piccolo. Les amateurs connaissent, il y a un magasin de disques, c'est le Yeti des puces. Il fait une grande dédicace, il va essayer de réunir autant d'auteurs du livre que possible, on est 35, on sera peut-être une 20-25, et les bébés brunes vont jouer, donner un concert gratuit dans les puces.
Donc ce sera le 19 décembre dans toutes les bonnes librairies rock français chez Ebec. Merci Jean-William Thoury, merci Philippe Manœuvre d'avoir partagé ces 90 minutes avec nous. Merci à Bruno Nevdanski qui était ravi de passer à la fois des vinyles, de retrouver Philippe Manœuvre qu'il a connu sur France Inter il y a 27 ans.
Je faisais du rock.
Et merci encore, comme toujours, à Flore Ave, à Fanny Jaffray et à Lionel Quentin, la belle équipe de cette émission Radio Libre.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 6 novembre 2010.